Bonjour à toutes et tous, c'est Léa sur Canal B. Il est midi 15 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade farte.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française. C'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de mémoire?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société sur Canal B. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2026 ou le jeudi 2 juillet si vous nous écoutez en rediff. Au sommaire de cette émission, une interview consacrée à la question de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Pauline, de l'association Liberté Couleur à Rennes, a été reçue par Manon de la rédaction il y a quelques jours et nous a partagé son expérience des interventions en milieu scolaire. Et puis, on restera en compagnie de la jeunesse, puisque dans le reportage du jour, on a le plaisir de suivre un groupe de 4e en visite au Champ Libre à l'occasion de la nouvelle exposition consacrée à l'affaire Dreyfus. Bonne écoute.
Bon. Libyane et Malaisie, toi, moi, trois nuages gris. On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est le chaos. Nuit noire, trois nuages gris. Pas pour les saints et les si. On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est chaos. Monte dans la gova, on met tout à zéro. Même pour les fafons, là on met boule à zéro. Ça vole pas très haut, c'est pas des héros. Je veux un gros chèque avec plein de zéro. Million zéro, on va au bureau. Million zéro, on va au bureau. Trois nuits blanches avec Maradona. Toute la nuit on a prié Ave Maria. J'ai cherché Dieu dans la sativa. Même dans la dérive reste une diva. Mes rêves sont hauts, j'avance solo. Même sans la peau, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo.
Pour ce son qui donne la pêche, c'était Psycho, dernier single du groupe Chege, et ça fait partie des nouveautés que vous pouvez écouter sur les ondes de Canal B. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société de Canal B. Tout de suite, pour l'interview du jour, je vous propose d'écouter Pauline de l'association Liberté Couleur, le tout au micro de Manon de la rédaction de Canal B.
Il y a quelques mois, nous avions reçu dans 3 en 1 Pierre Chapa, directeur d'une école publique et militant à la CGT Éducation 35. Il nous avait alors expliqué l'importance des programmes EVAR, Éducation à la vie affective et relationnelle, et EVARS, Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, notamment dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Ces programmes sont décriés par certaines associations comme Parents Vigilants qui dénoncent, je cite, « l'endoctrinement des enfants qui se dissimulent derrière ces cours d'éducation à la sexualité ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pauline, chargée de projet au sein de l'association Liberté Couleur. Bonjour.
Bonjour.
Vous effectuez des interventions EVARS dans les collèges et lycées. Et aujourd'hui, on va parler de la manière dont se passent ces interventions, et notamment à propos d'une thématique précise, grandissante et inquiétante, le masculinisme. Donc pour commencer, que recouvrent les enseignements d'EVARS ?
L'EVARS, donc comme tu l'as dit, ça veut dire éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc le S arrivant au collège. Toute la partie élémentaire est sans la partie sexualité, puisque c'est avant tout un espace d'échange et de discussion sur les relations, le rapport au corps. Il y a une grande partie qui est simplement de pouvoir apprendre à nommer, à bien connaître son corps et à apprendre à poser des limites, à le respecter soi-même et à apprendre à le faire respecter par les autres.
Et du coup, à quel besoin de santé publique ça répond ?
Bah, comme tu l'as dit en introduction, ça répond avant tout aux besoins de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales. C'est de la prévention. En fait, apprendre à connaître son corps, à le nommer et à respecter des limites, ça permet d'être dans des relations plus saines avec soi-même et avec les autres. Donc à prévenir les violences qu'on pourrait subir ou qu'on pourrait faire subir à d'autres personnes dans nos relations.
Qu'est-ce qu'on entend concrètement par vie affective ?
Ouais, c'est très large. Surtout que la différence entre vie affective et relationnelle est assez fine, mais c'est globalement donc tout ce qui recouvre nos liens. Par exemple, en élémentaire, on va particulièrement parler des relations familiales et des relations amicales. C'est à partir du collège qu'on commence à parler de relations éventuellement amoureuses et ou sexuelles. Et donc c'est avant tout parler de comment on est en lien avec les autres. Donc ça commence, la première étape qui est faite avec les plus jeunes, c'est avant tout de parler de comment on est soi avec les autres. Donc comment je respecte mes propres limites, comment j'exprime mes émotions par exemple. La partie simplement exprimer des émotions et savoir écouter, entendre celles des autres pour les respecter. Déjà ça, c'est la base de l'aspect affectif et relationnel.
Et justement, tous les élèves ne grandissent pas dans une famille où l'on aborde les thématiques liées à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle du coup à partir du collège. Comment est-ce que vous pouvez prendre ça en compte ?
Malheureusement, le système scolaire est fait en France de telle façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment prendre en compte les individualités de chaque élève parce que les groupes sont trop importants. Dans la mesure du possible, on essaie d'avoir des groupes restreints, de pouvoir avoir des demi-groupes qui nous permettent d'aller un peu plus loin sur des thématiques et d'offrir un espace plus grand aux élèves pour exprimer des choses individuelles, mais c'est pas l'espace. Dans les séances, on fait toujours un rappel des lieux ressources pour après que les élèves puissent aborder des situations individuelles, ne serait-ce qu'auprès des adultes de l'établissement. Il y a un autre point, c'est qu'en effet, on fait avec la différence culturelle et les différences dans l'éducation. Simplement sur les valeurs qui peuvent être véhiculées dans chaque famille, dans chaque foyer. Nous, on vient s'appuyer sur des choses qui sont très générales et qui sont aussi de l'ordre de la loi, de ce que la loi en France, elle fixe comme cadre, par exemple, en lien avec les violences sexistes, sexuelles. À partir de là, nous, on ne vient pas apporter un jugement sur ce qui pourrait être véhiculé au sein des familles ou dans les foyers. Et c'est simplement venir mettre un peu de nuance et développer plutôt le libre arbitre des enfants. Donc de les questionner sur eux, ce qu'ils en pensent, indépendamment de ce qu'on leur transmet au quotidien à la maison. Évidemment que les deux sont reliés et qu'ils se construisent avec ce qu'ils entendent au quotidien. Mais l'idée, c'est de les amener à « Ok, vous entendez ça tous les jours, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Et de surtout pas apporter de jugement. On n'a pas une posture qui vient juger ce qui est dit à la maison. On vient simplement apporter de la nuance et si besoin, on vient recadrer. S'il y a vraiment des comportements ou des réflexions qui sont en dehors du cadre légal, on vient quand même recadrer en s'inscrivant aussi dans ce que la loi, elle limite. Mais c'est déjà dans un premier temps, simplement les questionner sur ce qu'ils en pensent, en fait, leur propre avis.
Ces interventions peuvent être en mixité ou non. Est-ce que les élèves, ils se sentent plus à l'aise quand ils ou elles sont en non-mixité.
Ça fait partie des images qu'on peut avoir, justement, de se dire que forcément, ça va mettre plus à l'aise que ce soit en non-mixité, et finalement, dans les faits, pas tellement. Et pour nous, c'est même plus intéressant, et c'est même important, justement, politiquement et dans la question du soin, si on veut aller vers des relations, et particulièrement les relations filles-garçons, que ce soit dans les amitiés, dans les relations familiales ou les relations amoureuses, c'est particulièrement important d'entendre aussi d'autres angles, d'autres schémas de pensée, et donc d'éviter l'entre-soi, d'avoir un énième regroupement entre garçons pour parler de ces sujets, ou un énième regroupement entre filles, et là de pouvoir confronter leurs avis, leur positionnement, et c'est là que ça peut les faire bouger. Et moi, je trouve que c'est le plus intéressant quand il y a des débats entre eux. Et que, par exemple, ça m'est arrivé il y a peu, un garçon, là vraiment je suppose du genre des élèves et de ce qu'ils m'ont dit, évidemment, mais un garçon qui a eu une réaction, c'était une réflexion sexiste sur un présupposé sur le fait que la tenue des filles, certaines tenues augmenteraient le risque de subir des agressions sexuelles. Et en fait, le fait qu'il y ait eu immédiatement une réaction par une autre élève, c'était beaucoup plus percutant que si la réaction, elle venait de moi. Et j'ai senti que ça l'avait fait beaucoup cheminer, et il y a eu un débat entre les élèves. Ce débat-là ne serait certainement pas arrivé si c'était en non-mixité. Et s'il était uniquement avec des camarades masculins, peut-être qu'il serait arrivé. Mais en tout cas, là, la réaction vive venant d'une camarade, je pense qu'elle était beaucoup plus percutante, et ils sont revenus à la fin et on a rediscuté du sujet. Donc je pense que lui, ça l'a fait beaucoup plus cheminer que si la séance avait été en non-mixité.
Est-ce que tu vois parfois de l'autocensure chez certains et certaines des élèves ?
Oui, de sentir qu'ils taisent un peu certaines pensées. Oui. Oui, on le sent. Notamment dans les propos qui seraient un peu plus sexistes, voire masculinistes. Je sens de la censure. On sent que on intervient quand même si on n'est pas de l'éducation nationale, même si on n'est pas leur prof, on intervient dans un cadre qui est scolaire, qui est assez cadré, dans lequel il faut respecter les mêmes règles qu'habituellement. Et du coup, on sent qu'il y a quand même une certaine censure dès qu'ils ont un schéma de pensée qui ne serait pas dans les clous, parce qu'ils savent aussi. Je sens que des fois, ils répondent aux questions parce qu'ils savent un peu ce qu'on en attend. C'est là aussi où c'est tout l'intérêt de penser des trames d'intervention qui, justement, n'attendent pas des réponses toutes faites. Et donc, ça évite aussi l'autocensure, ou en tout cas des questions de relance qui permettent de creuser un peu pour voir quel est le fond de la pensée. Et après, s'il y a de l'autocensure, ça a aussi une raison d'être. Donc, ça... Je pense qu'on ne peut pas faire sans autocensure. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, nous, on vient semer un peu des graines qui peut-être germeront pour venir remettre en question, voire décaler un peu certains schémas de pensée et qui peut-être leur permettraient d'évoluer, notamment sur... je pense qu'en autocensure, ce que je perçois le plus, c'est les réflexes de discrimination LGBTQIA+, de certains élèves. Au moment où on aborde ce sujet, je sens que certains élèves se tendent un peu et qu'il y a des propos qui sont, je les sens, s'auto-censurer dans leur formulation. Et sur les questions sexistes et notamment masculinistes.
On fait une pause musicale dans 3 en 1. Enfin, je devrais plutôt dire on change le monde en musique.
C'est être soi sans contrainte et sans jugement. C'est déposer poser les armes, renverser les larmes, en faire des rivières de rage, de partage, de joie, de diamants. C'est repousser les frontières, les limites des esprits rigides et binaires, où tout est noir ou blanc, masculin ou féminin, banal ou extraordinaire, mal ou bien, avec ou sans. Je veux de la complexité, je veux de la nuance, je veux de la substance, je veux de l'épaisseur. Et je veux de la radicalité dans la douceur, dans l'amour, dans la joie. Je veux de l'inclusivité, pourquoi faudrait toujours tout séparer, toujours tout écraser pour sentir exister. Je veux prendre le temps de pousser comme un vieux chêne, pourquoi faudrait toujours se presser, se faire mal, s'ouvrir les veines quand on n'a plus rien à donner. Culpabiliser, culpabiliser. Je veux agrader le monde, je veux qu'on arrête ce qu'il détruise. Je veux qu'on arrête de sentir impuissant face à l'abominable, celui qui glace le sang, qui fait qu'on sent minable. Je veux qu'on trouve la force ensemble de créer sans saccager d'autres façons de faire société plus désirable. Je veux me déchaîner, je veux la folie à des grandes heures. L'hystérie me fait pas peur, je veux des racines déplaçables et des branches qui grandissent dans tous les sens, en laissant l'espace à celle de mes adelphes naissantes. Je veux qu'on grandisse ensemble, je veux qu'on s'élève ensemble, je veux qu'on célèbre ensemble. Je veux pouvoir aimer en grand, y'a de la place dans mon cœur pour 8 milliards de gens, 1000 triards d'êtres vivants. Les lacs, les forêts, les montagnes, les déserts et les mers, le temps. Je veux qu'on s'aime, je veux qu'on s'aime tant tant. Plus de performance, plus de cadence parfaite, papier prêt, mâché, recraché. Plus de violence, comprends la nuance. Et si je crie, c'est parce que j'ai du mal à me faire entendre. C'est leur violence qui me tend et qui l'engendre. C'est parce qu'on veut me faire taire, c'est leur justice qui me fait briller, l'impunité qui me fait chialer. Free, free, Palestine et tous les peuples opprimés. Je renverse les rapports de force, je veux chanter plus fort que leur bruit de bottes. Que le peuple se soulève fier, que l'on soit solidaire, que les oppresseurs tremblent, que l'on partage les privilèges, que les patrons fassent place à l'autogestion, qu'on pulvérise toutes leurs certitudes, qu'on en finisse avec la servitude. Je veux des débordements de joie, de l'intelligence collective, des actes partout et de la police nulle part. Je veux de l'espace pour l'espoir, des tonnes de coins anarcho-citoyens, parce que s'il y a toi, il y a moyen. Je veux voir des utopies fleurir, celles dans lesquelles personne croit et on pourra en dire. Je disais que ça marcherait, parce qu'on est tous unis, qu'on est tous concernés dans cette société où tout est politique et droitisé. Et c'est qu'on peut plus reculer, qu'on va redoubler d'efforts, parce qu'on est fort, délétère, qu'on se laissera plus faire, car même des graines poussent dans le désert. Cultivons la douceur, les points de vie, les cœurs gorgés de joie, de rage, propageons le courage des arcs-en-ciel. Les graines généreuses généralisées avec les sans-papiers, les sans-succès. Ciao, leur mère écrotte assis en carton. C'est ça la vie de château, c'est prendre soin de chacune et de chaton. Je nous souhaite des gros gâteaux, tout chauds, à peine sortis des moules pour festoyer ensemble. Je nous souhaite de rassembler les luttes et les rires, d'éclater les cadres à coups de sourire, de continuer à créer d'autres imaginaires. Le nouveau monde s'avance joyeux, on fera pas machine arrière. Le nouveau monde s'avance furieux, on fera pas machine arrière.
C'était La Folia du groupe lyonnais Ultramoule, premier titre de l'album Gros Gâteau, sorti en avril dernier. Et comme pour le premier morceau, c'est à retrouver dans la playlist Nouveautés de Canal B. On retrouve tout de suite Pauline de l'association Liberté Couleur pour la seconde partie de l'interview consacrée à l'éducation affective et sexuelle.
Pour définir ce qu'est le masculinisme, donc selon la définition du dictionnaire Robert, c'est l'ensemble des revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. Donc une partie du programme de l'EVAR s'intéresse à l'égalité femmes-hommes et notamment au masculinisme. Quand tu parles du masculinisme en classe, comment est-ce qu'on aborde ce sujet ?
Ça fait partie des sujets dont on parle de façon transversale et ça fait rarement partie des trames à la base, sauf si c'est une demande spécifique de l'établissement, et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'équipes avec lesquelles on travaille en amont qui nous disent « Nous, on entend, on perçoit qu'il y a la consommation de contenu masculiniste, donc on va essayer de penser une trame qui aborde ce sujet à un moment, mais c'est pas systématique. Par contre, d'essayer de quand même le déconstruire, même si on ne l'a pas identifié, si jamais j'en perçois pendant la séance, si je sens qu'il y a des mots, à force je commence à identifier les mots des influenceurs masculinistes, et donc s'ils ressortent, ça permet de rebondir dessus et d'essayer de comprendre ce qu'eux connaissent et comprennent de ces contenus pour essayer d'aller un peu plus loin dessus.
Tout à l'heure, tu parlais d'un débat entre deux personnes d'un genre différent, donc par exemple après une remarque sexiste. Quand ça t'arrive, est-ce que tu laisses le débat se passer ou alors est-ce que tu interviens ?
Ça dépend beaucoup du contexte. Déjà, ça dépend du temps qu'on a. C'est une réalité. Comme c'est des séances d'une heure et demie ou deux heures, c'est extrêmement court pour aborder tout ce qu'on a besoin d'aborder, tout ce qu'on souhaite en tout cas aborder. En général, moi, ma première réaction, c'est de plutôt laisser les jeunes débattre entre eux. Je trouve que c'est là que c'est le plus pertinent pour les faire évoluer la pensée en elle-même. Maintenant, des fois, ça m'arrive d'intervenir, surtout quand je sens que justement, ça dépasse une limite de cadre. Au début, dans le cadre, on fixe aussi des notions de respect, de bienveillance, de non-jugement. Bah là, en fait, si ça dépasse ça et que c'est juste pour dire les filles, elles sont toutes comme ça et qu'il n'y a pas d'autres réactions dans la salle, bah là, j'interviens pour essayer de mettre de la nuance et d'essayer déjà de comprendre et aussi, de, si besoin, replacer du cadre. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver qu'il y ait des propos qui sortent du cadre de la loi aussi, qu'il y ait des propos qui soient homophobes, transphobes. Ben là, pour le coup, c'est pas un débat. C'est de bien les ramener au fait que l'homosexualité n'est pas un débat. C'est pas... voilà, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est du coup replacer un peu le cadre. Et des fois, ça amène juste à un débat. Et donc, il y a plein de fois où j'arrive avec ma trame et en fait, on va passer... trois quarts d'heure de la séance à débattre d'un tout petit point de la trame, et ben du coup je ferai pas tout et c'est pas grave parce que la trame c'est un prétexte, c'est une proposition et après les jeunes s'en emparent comme ils veulent.
Tu as dit qu'il y avait de plus en plus de demandes de la part des établissements pour intervenir au sujet du masculinisme, c'est donc qu'il y a un réel besoin ?
Moi je l'observe déjà à mon échelle, je fais ce travail depuis quelques années et j'observe que ça prend de plus en plus de place et que dans la plupart des classes, que ce soit collège ou lycée, les jeunes connaissent les noms des influenceurs masculinistes. Il y en a pour qui ça s'arrête là. Quand je creuse un peu pour savoir qui sont ces personnes, de quoi ils parlent sur leur réseau, c'est moins clair et du coup ils font pas forcément le parallèle avec des propos qui seraient sexistes, voire masculinistes. Ils connaissent pas tellement ce terme de masculinisme au collège. En général, au lycée, ils le connaissent. Et donc, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu ce que c'est. Moi, en tout cas, dans mon approche, de surtout pas être dans quelque chose de punitif ou de restrictif. Et donc, c'est pas une approche pour dire « Quoi, vous me parlez de tel influenceur, mais il faut juste pas le suivre sur les réseaux, point. Et il est masculiniste, on s'arrête là. » C'est plutôt de dire « Ah, ok, c'est intéressant. Bah, il parle de quoi dans ses vidéos ? Ok, vous en pensez quoi ?» Et en fait, de les amener petit à petit à prendre du recul sur ce qui est dit, d'essayer de comprendre. Je leur dis pas du tout de ne plus les regarder, par exemple, mais c'est plutôt d'essayer de développer encore une fois leur esprit critique pour avoir du recul sur ce qui est dit. En plus, c'est des vidéos très courtes et faites avec beaucoup de charisme. Pour certains, c'est une façon de parler qui est impressionnante. Enfin, moi, je me mets à la place d'un jeune de 15 ans qui voit passer ces vidéos-là. Si moi-même je suis en train de me questionner sur ma propre identité, sur ma place dans la société, sur comment les autres me perçoivent, ben il y a des chances qu'en effet je sois sensible à ce qu'on soit en train de me dire.
Donc si je comprends bien, là, l'objectif c'est vraiment d'aider les élèves à développer leur propre esprit critique.
Le masculinisme c'est avant tout prôner des hiérarchies entre les hommes et du coup c'est un courant de pensée qui prône aussi la violence entre les hommes. Donc c'est plutôt les amener à toute cette réflexion sur venez, on va vers un schéma de pensée qui prône juste pas de violence et le fait de respecter et d'accueillir toute personne, quelle que soit son apparence physique, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Voilà, c'est petit à petit de simplement développer leur esprit critique pour leur dire bah, vous allez retomber dessus, c'est sûr. Il y a le livre de Pauline Ferrari qui est formée à la haine des femmes, dans lequel elle fait le test de créer un compte sur un réseau social où elle se fait passer pour. Ah, j'ai plus tous les éléments précis en tête, mais en gros, disons, un ado genré masculin de 15 ans. Et au bout d'à peine une demi-heure, elle a déjà des contenus masculinistes dans son fil. Donc, c'est plutôt leur dire, ben, vous allez en avoir à un moment. Vous en avez sûrement déjà vu. Si c'est pas sur les réseaux, ce sera dans une autre forme. Donc, comment on peut se protéger de ça et quel regard on peut avoir dessus ?
Et le fait que les débats partent des élèves eux-mêmes et de leurs propres discussions, ça les rend encore plus enrichissants.
C'est plutôt de leur dire, bah, vous en pensez quoi ? Et en fait, entre eux, moi j'ai vu des débats extrêmement intéressants entre les élèves. là pour le coup je me souviens dans une classe de 3e d'assister à un débat entre deux garçons de la classe où un disait mais en fait c'est n'importe quoi ce que tel influenceur il dit et l'élève il avait des arguments pour expliquer pourquoi ce que cet influenceur là disait était faux à un autre élève qui pour le coup buvait les paroles de cet influenceur. Et donc finalement ça avait, moi j'ai senti dans le regard de ce dernier élève là que c'était beaucoup plus percutant d'entendre les contre-arguments de son camarade plutôt que si ça venait de moi qui suis je pense perçue comme bon ben c'est la dame là la féministe d'une trentaine d'années qui enfin il s'identifie pas à moi. Donc c'est beaucoup plus percutant si ça vient d'eux-mêmes. Et c'est tout l'intérêt de penser des trames qui amènent à des débats, comme je disais tout à l'heure, pour que les arguments et les contre-arguments viennent des camarades. C'est là que ça peut les faire vraiment bouger et réfléchir.
Eh bien, merci Pauline d'avoir répondu à mes questions sur l'organisation des cours d'Evars et sur la place des débats autour du masculinisme pendant ces interventions. Je le rappelle, tu es chargée de projet au sein de l'association Liberté Couleur. Merci.
Merci à toi.
Merci à Manon de la rédaction pour la réalisation de l'interview. Et tout de suite, je vous propose une immersion dans l'exposition Dreyfus au Champ Libre à hauteur de collégiens et de collégiennes.
Il y a encore de la place ici. Ok, super. Est-ce que vous connaissez déjà les Champs Libres ?
Oui.
Qui est déjà venu ? Ok, tout le monde. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée, à votre avis ?
Des choses sur l'histoire de la Bretagne.
De la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc ça fait deux boucles, une autour de la bibliothèque, mais qui est fermée en ce moment, et une plus contemporaine autour de l'espace des sciences. Et donc il y a une autre exposition permanente qui vient d'ouvrir. Vous êtes les premiers scolaires à la visiter. C'est celle sur l'affaire Dreyfus qui est juste en face de nous.
Tuto comment casser un sabre d'un seul coup. Non, c'est pas ça. Le traître, c'est possible. Des sabres de mauvaise qualité dans l'armée, ça, je pense pas. Dreyfus est pur malgré lui. Je trouve ça bizarre quand même. Je pense que c'est le traître.
Alors, regardez autour de vous, vous allez trouver la réponse dans l'exposition.
Je suis Sarah Perrin et je suis professeure d'histoire-géographie au collège Holy School à Rennes. Cette exposition-là, elle vient permettre aux élèves de voir des unes de journaux, de voir des uniformes militaires, de voir des photos, de voir des dessins de presse. Et ça, c'est très important parce que c'est des documents qui font l'histoire.
C'est encore, madame, une des stations de votre calvaire. Et encore une fois, nous voilà plongés avec vous dans l'anxiété, dans l'attente de ce que nous réserve demain.
Je m'appelle Vianney. Et là, la photo que je vois en face de moi, c'est... le procès au collège actuellement Émile Zola et Alfred Dreyfus sort de sa salle de procès et tous les gardes lui font une sorte de haie d'honneur mais lui tournent le dos en signe de déreconnaissance.
Et qu'est-ce que tu penses de l'exposition jusqu'à présent ?
Bah, on a déjà pas mal travaillé en classe. Mais si ça approfondit un peu plus mes connaissances sur l'affaire Dreyfus. Et j'aime beaucoup. J'aime bien poser des questions dessus.
Dans cette vie de réclusion, je crois que ça parle de l'île du diable. C'est l'endroit où Dreyfus a été exilé. Et il vivait dans des conditions misérables, dans une mini maison avec un mini jardin.
Parfois, quand on travaille sur la question des sources en histoire avec les élèves, je leur dis « Mais est-ce que là, c'est une source volontaire ? Est-ce que là, c'est quelqu'un qui a laissé une trace sans le vouloir, finalement ? Qu'est-ce que c'est que cette source ? Comment est-ce qu'on l'analyse ? Qu'est-ce que ça nous dit de cette époque-là ? » Donc, faire parler des objets, c'est tout le travail qu'on fait en histoire. Et donc, c'est toute... en tout cas, pour moi, c'est toute ma joie comme professeur de leur permettre de voir, de faire parler eux-mêmes ces objets-là qu'ils découvrent dans l'expo.
Le gouvernement français me rend ma liberté.
Où est-ce que t'en es, Bérénice ?
À la fake news, aucun journaliste n'était présent à Rennes pour témoigner de la vérité. Et du coup, il faut que je trouve quel numéro correspond à chaque indice, donc de quel bâtiment. Et ça me donnait le code.
Et l'enquête que tu es en train de réaliser, est-ce que tu trouves que c'est un petit plus par rapport aux autres expositions ?
Ça permet de voir les détails, pas de juste passer devant quelque chose sans le voir en détail. Et du coup, tu vois mieux et tu t'en rends encore plus compte que c'était pas que une petite affaire.
Merci à la classe de Madame Perrin et au Champ Libre pour leur accueil. Trois en un, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour la saison. Merci à Pauline de l'association Liberté Couleur et à Manon pour la réalisation de l'interview. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez la réécouter, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. L'émission de Boule Vanille débarque sur les ondes de Canal B la semaine prochaine. Deux ou trois boules de glace, l'équipe a tranché, mais n'ayez crainte, les gourmands, vous en aurez pour votre compte. Au programme, des interviews d'acteurs et d'actrices du territoire, de la création sonore, des reportages au long cours. Dans De Boule Vanille, on prend son temps. Alors rendez-vous du lundi au vendredi à 17h à partir de la semaine prochaine.